Le programme qui va suivre vous est présenté par le ministère enseigne-moi.com. Soyez transformés par l'enseignement de la parole de Jésus-Christ.
C'est pourquoi en son nom, je pose les mains sur les malades et ils sont guéris.
Jésus macht frei.
Jésus libère.
Jésus rettet.
Jésus. Nous avons la parole de Dieu qui renverse des chaînes, des forteresses.
Tu passes du nom de chrétien au nom d'enfant de Dieu.
Mon être est brisé, je n'ai ni force, ni raison, ni sagesse pour me relever. Enseigne-moi.
Nous voulons aujourd'hui ouvrir la parole de Dieu avec vous dans 1 Corinthiens 1 et au verset 17 et 18. 1 Corinthiens 1, verset 17 et 18. La Bible dit ceci, « Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'Évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. » Dans ce passage-là, nous voyons, le résumé de ce passage, c'est que la prédication de la croix est une puissance de Dieu. La prédication de la croix manifeste la puissance de Dieu. Mais à quel niveau? Nous allons le voir. Deuxième lecture, Philippiens 3, verset 10. Souvent, nous nous arrêtons à une seule face de la vie chrétienne et au bout de 15 ans, nous sommes épuisés. Au bout de 10 ans, nous sommes épuisés. Nous ne savons plus que faire. Paul a parlé de la puissance de la croix, mais regardons, le même Paul va expérimenter autre chose qu'il va découvrir dans Philippiens 3 et au verset 10. Paul dit que ainsi, je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir si je puis à la résurrection d'entre les morts. Ici, l'expression que nous allons retenir, c'est la puissance de sa résurrection. Alors, Paul utilise ici pour, il dit, la prédication de la croix est une manifestation. La prédication de la croix amène la manifestation de la puissance de Dieu, donc dans la vie des gens. Mais à quel niveau cela se passe? Mais plus tard, Paul nous dit, en écrivant aux Philippiens, il dit, ce que je veux connaître. Donc, il connaît déjà la puissance de la croix. Il connaît que la croix manifeste une puissance. Mais il y a quelque chose que Paul vient de découvrir et il écrit aux Philippiens et à nous tous. Il dit, ce que je veux connaître maintenant, Paul est vers presque la fin de sa vie. Il dit, ce que je veux connaître, c'est Christ lui-même, Christ dans toute son ampleur et la puissance de sa résurrection. Ah! Donc, la croix manifeste une puissance. La croix est une manifestation de la puissance de Dieu dans un premier niveau, dans un premier aspect de la vie chrétienne. C'est pourquoi, lorsque nous parlons de l'œuvre accomplie de Christ, l'œuvre achevée de Christ, même là encore, ceux qui parlent de cela s'arrêtent seulement à la croix. Tout le monde magnifie la croix. Mais, frères et sœurs, la croix, c'est la mort. Nous allons voir tout à l'heure ce que ça veut dire exactement. La croix n'apporte pas la vie. Vous savez très bien que lorsqu'on parle de croix, on ne parle pas du morceau de bois. On parle du sacrifice de Christ. On parle de l'œuvre de substitution que Christ a opérée à la place des hommes et aussi avec les hommes. Donc, mais si nous restons à ce niveau-là, nous allons connaître la manifestation de la puissance de Dieu concernant le pardon des péchés, concernant la guérison de nos maladies, concernant la bénédiction parce que la malédiction est ôtée, concernant la prospérité parce que la pauvreté, Christ l'a pris sur lui à la croix du calvaire. Mais nous ne connaîtrons pas la puissance de la résurrection. Qu'est-ce que la puissance de la résurrection? Écoutez, frères et sœurs, si nous regardons attentivement l'œuvre achevée de Christ à la croix, c'est-à-dire on parle de la mort de Christ, de son ensevelissement, de son séjour au séjour des morts, où il est parti retirer la clé de la mort et du séjour des morts dans les mains de celui qu'il avait usurpé, et donc au jardin d'Éden. Alors, qu'est-ce que cela nous apporte? Bien-aimés frères et sœurs, chrétiens de tous bords, il faut nous arrêter pour y réfléchir. Dans l'épître de Pierre, 1 Pierre 2, 23 et 24, dans l'épître de Pierre 2, 23 à 24, voilà ce que la Bible nous dit. La Bible nous parle clairement, la Bible nous éclaire. Et il est dit, lui, Jésus, qui injurié, ne rendait point d'injure, maltraité, ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Donc, quand nous devons être chrétiens, nous devons comprendre l'œuvre achevée ou l'œuvre accomplie de Christ dans toute sa plénitude, pas seulement par rapport à la croix. Nous venons de lire par la bouche de Pierre ce qui s'est passé à la croix. À la croix du calvaire, première chose, Christ Jésus. C'est Jésus, il a été crucifié, il a pris tous nos péchés. C'est ça que Ésaïe a annoncé dans Ésaïe 53. C'est ça que Pierre a pris dans 1 Pierre 2, 23. Et il reprend, il dit, Christ Jésus, en mourant à la croix du calvaire, a pris nos péchés, tous nos péchés. Tout le monde est content. Tout le monde, et ils sont pardonnés. Là, c'est plus que le pardon même, les péchés sont remis. La dette est entièrement remise. Ça, c'est la rémission des péchés. C'est plus que le pardon. À la croix du calvaire, ce n'est pas fini. Christ a porté aussi nos maladies. C'est écrit là-dedans. Il a pris nos infirmités. Il s'est chargé de toutes nos maladies. Ça, c'est un deuxième fait de l'œuvre achevée de Christ à la croix du calvaire. Tout le monde s'en réjouit. Les gens reçoivent la rémission des péchés. Les gens reçoivent la guérison. Ils disent oui, vraiment la croix est puissante. Oui, la croix manifeste, est la manifestation la puissance de Dieu envers quiconque croit en l'œuvre de Christ. Mais troisième élément toujours de la croix, la malédiction. Christ est devenu malédiction à la croix du calvaire pour que la bénédiction de Dieu vienne sur nous. Et quatrième élément, la Bible dit, il s'est fait pauvre, il a pris cette pauvreté pour qu'en retour, nous puissions être dans la richesse de Dieu. La pensée, la richesse selon la pensée de Dieu n'est pas est différente de la richesse de ce monde-là qui se compte en termes seulement de milliards. La richesse de Dieu est plus que cela. Ça va au-delà de l'argent. Alors, tous les chrétiens sont contents. Dit à la croix, je suis sauvé, à la croix, je suis guéri, à la croix, je suis béni, à la croix, je suis prospère. Mais il s'arrête là. Mais qu'est-ce qui s'est passé à la croix? Deuxième aspect de la croix. Romains 6, 6 nous dit qu'à la croix, Christ n'a pas porté seulement nos péchés. Nos péchés n'ont pas été seulement remis. Nos maladies n'ont pas été prises par Christ seulement. Et nos malédictions, notre pauvreté. Mais Christ est allé un peu plus loin. L'œuvre achevée de Christ à la croix, c'est aussi la crucifixion de notre vieil homme, notre nature adamique. Cette nature qui a chuté là, que nous avons héritée de notre papa Adam, qui est tombé, ce vieil homme-là a été crucifié. Romains 6, 6. Notre vieil homme a été crucifié afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance. Car quiconque est mort est libre du péché. Et ça concerne maintenant notre nature. Parce que si nos péchés sont seulement pardonnés ou remis, si seulement nos maladies sont enlevées, si nous sommes bénis et que notre nature qui produit la mort, qui produit le péché, notre nature qui est rebelle, notre vieil homme qui est rebelle envers Dieu n'est pas crucifié, n'est pas mort, nous allons continuer à produire toujours, nous allons continuer à produire donc la mort. C'est pourquoi, bien-aimés frères et sœurs, beaucoup de chrétiens se sont arrêtés là, ils sont contents. Effectivement, tout le monde est content lorsque, chargés de nos péchés, nous ne savons pas où aller. Nous tournons à gauche, nous sommes culpabilisés, nous sommes complexés, nous sommes tourmentés, nous sommes dans l'angoisse. Un jour, on entend l'évangile que Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu incarné, a pris nos péchés à la croix du calvaire. Nous sautons et que nos péchés sont remis. Nous sommes dans la joie et que nos malédictions, nos maladies sont tout ça. Christ a pris tout cela. Nous sommes heureux. Mais écoutez-moi, vous allez comprendre, chrétien. Vous allez comprendre quelque chose. Au bout de quelque temps, 3 mois, 6 mois ou 1 an, vous commencez à vous dire, mais je ne comprends pas. Mais je crois que Christ a pris mes péchés. Je crois qu'il a porté mes maladies, qu'il s'est chargé de toutes mes souffrances. Je crois qu'il a porté mes malédictions en devenant malédiction. Et je crois même qu'il est devenu péché pour que moi je devienne juge de Dieu. Je crois tout ça. Mais je ne comprends pas pourquoi je continue à faire les mêmes choses avant ma conversion. Voilà la question. Tout le monde s'arrête à la croix. À la croix, je suis sauvé. Oui, à la croix, je suis guéri. À la croix, je suis béni. À la croix, je suis prospère. Mais si tu restes là-bas, tu es mort. Parce qu'à la croix, c'est la mort. Christ était mort à la croix. Christ n'était pas vivant, il était mort. Et quand il allait mourir, il a remis son esprit au Père. Son âme va aller dans le séjour des morts, c'est écrit dans la Bible, c'est pas moi qui le dis. Son âme va aller au séjour des morts. Et acte 2, quand Pierre a prêché, si tu ne crois pas à cela, acte 2, les trois parties, chaque partie va aller là où elle est, où le péché doit partir, puisque Christ est devenu péché avec nos péchés. Son âme va aller où? Son âme n'ira pas au paradis directement. Regardez, ne croyez pas que c'est une nouvelle doctrine. Le jour de la Pentecôte, Pierre a prêché cela. Acte 2, verset 22, il dit, homme israélite, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage, est devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la pression de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'est pas possible qu'il soit retenu par la mort. Car David dit de lui, « Je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois pas ébranlé. Mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec espérance. Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. » Mais quand David parlait de ça, Pierre dit que David ne parlait pas de lui-même. Il regarde le verset 29. Il faut savoir lire la Bible par l'inspiration du Saint-Esprit. Verset 29, Pierre dit, « Homme frère, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David, qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection de Christ qu'il a prévue et annoncée en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. » Alors, c'est clairement dit ici, quand Jésus allait mourir, maintenant, il remet son esprit au Père, lisez dans les évangiles, vous trouverez ça dans les évangiles, évangile de Jean, il remet son esprit au Père et son âme va aller au séjour des morts. Et son corps sera dans le tombeau, car le corps appartient à la terre. Vous entendez? Les trois parties. Esprit remis au Père d'où il vient. Âme qui est allée puisqu'il s'est identifié au pécheur. Il est devenu péché. Il ne pouvait pas aller ailleurs que dans le séjour des morts. Et son corps a été déposé par Joseph d'Arimathée et Nicodème dans le tombeau de Joseph d'Arimathée, l'homme riche. Alors, Mais si nous regardons là, jusqu'à présent, est-ce qu'on parle de vie? Non. Si tu crois tout ce que Christ a fait à la croix de Calvaire, tes péchés sont remis. Gloire à Dieu, tu es content. Tes maladies sont guéries, il n'y a pas de problème. La malédiction est ôtée, tu es content. La pauvreté est partie, tu es content. Mais ce n'est pas fini. Mais tu restes mort. Si Christ est mort, tu n'es pas encore vivant. Et c'est là que tout le monde s'arrête. Bon, on amène des gens, on leur prêche l'évangile. On leur dit que Christ est mort, il dit, quand ils s'en vont à la maison, ils ont la joie. Parce que n'importe qui, la Bible dit dans le psaume 32, heureux l'homme à qui tous ses péchés sont pardonnés. Tout le monde est content quand on dit que vos péchés sont pardonnés. Et beaucoup de chrétiens entendent cette merveille-là. Oui, mes péchés sont pardonnés, Dieu ne me condamne plus. Mais tu n'es pas vivant. Tu es un cadavre pardonné. Tu es un mort pardonné. Et c'est pourquoi il est impossible pour toi de vivre la vie chrétienne. On dit la vie chrétienne, non pas de la mort chrétienne. Tu as été identifié à Christ dans sa mort. Mais il faut que tu sois identifié à Christ dans sa résurrection. Là, si tu t'arrêtes à l'œuvre achevée de Christ à la croix, alors tu ne verras jamais la victoire. Parce que quand la Bible dit « Ô mort, où est ta victoire ?» Ça veut dire que quand Christ est sorti, qu'on a clairement dit « Ô mort, où est ta victoire ?» Sinon, quand Christ était au tombeau, la mort proclamait sa victoire. La mort disait « Ô Jésus, où est ta victoire ?» Quand Jésus était au tombeau et que son âme était au séjour des morts, c'est la mort avec Satan qui proclamait « Nous avons vaincu le Fils de l'homme, nous avons vaincu le soi-disant Messie et c'est nous qui avons la victoire. » Mais quand Jésus est sorti, la chose est renversée. On dit maintenant « Ô mort, où est ta victoire ?» Satan, où est ta victoire ? Mais chrétien, c'est la même chose. Si tu ne connais que Christ qui est mort à la croix du calvaire, tu vas connaître le pardon des péchés, tu vas connaître la rémission des péchés, tu vas expérimenter même la guérison des miracles, tu vas expérimenter et même les aveugles voient, les sourds entendent parce que Christ a pris toutes nos maladies à la croix du calvaire. Tu vas expérimenter que la malédiction ancestrale, tout est ôté et que tu es libre, qu'il n'y a plus de malédiction sur toi. Tu vas réaliser que la richesse divine vient sur toi et Dieu pourvoit tes besoins selon sa richesse avec gloire en Christ. Mais quand tu veux vivre la vie chrétienne, tu te rends compte que tu es incapable. Tu dis, mais je ne comprends pas. Mais pourtant, cette affaire-là, le jour que j'ai reçu Christ-là, j'avais la joie, oui! Tu avais la joie du pardon des péchés. Tu avais la joie de la rémission des péchés. Tu avais la joie de quelqu'un qui a été guéri dans son corps. Tu avais la joie de quelqu'un dont les malédictions sont ôtées. Mais c'est fini. Mais tu n'as pas la vie. Ceux qui prêchent l'œuvre achevée là, il faut aller plus loin. Si vous arrêtez à la croix, si vous arrêtez au tombeau, si vous arrêtez au séjour des morts, mais vous avez en face de vous des cadavres. Des morts. Et un mort ne peut pas vivre la vie. Le mot mort et le mot vivre sont deux choses différentes. Alors, le deuxième aspect de l'œuvre achevée, de l'œuvre accomplie de Christ, ça va au-delà du tombeau. Le troisième jour, il y a quelqu'un qui rentre en action. C'est le Saint-Esprit. Ah, qu'on appelle l'Esprit de vie. Vous entendez? Jésus-Christ, l'agneau qui ôte le péché, a fait toute son œuvre. Il a fait son œuvre. Il a pris vos péchés, il est devenu péché. Il a pris vos maladies pour vous guérir. Il a pris vos malédictions pour vous libérer de la malédiction. Il a pris votre pauvreté afin que vous puissiez bénéficier de sa richesse. Mais ce n'est pas fini. Il était au tombeau encore. Il était incapable de faire quoi que ce soit aux gens. Et le troisième jour, le matin, voici la deuxième partie de l'œuvre achevée de Christ. Le matin, le Saint-Esprit vient du ciel. Et le Saint-Esprit arrache l'âme de Christ du séjour des morts. Et Christ sort du séjour des morts. Allez-y, lis dans Apocalypse 1. Il est dit, j'étais mort, je suis vivant. Je suis le premier et le dernier, je suis vivant. J'étais mort, je suis vivant. Et je tiens dans ma main la clé de la mort et du séjour des morts. Où il a eu cette clé-là? Au séjour des morts. Il vous le dit clairement, on l'a lu déjà dans Acte 2. Alors, le Saint-Esprit vient, retire son âme de l'emprise du séjour des morts. Satan voit que sa victoire n'a duré que 3 jours et 3 nuits. Il est étonné. Il ne peut pas retenir Christ. Il ne peut pas retenir son âme. Et brusquement, l'âme et l'esprit de Christ rentrent dans son corps, dans le tombeau de Joseph d'Arimathée, et il sort. Mais regardez maintenant, écoutez-moi, vous allez comprendre. Je vais achever l'Écriture, la deuxième partie. La puissance de la résurrection va commencer. Vous avez expérimenté la puissance de la croix par la rémission des péchés, le pardon des péchés, la guérison, la bénédiction. Mais maintenant, le Christ qui est ressuscité là, il ne s'est pas ressuscité lui-même. C'est le Saint-Esprit qui l'a ressuscité. Et le Saint-Esprit va intervenir dans votre vie aussi. Parce que la Bible dit que vous qui êtes crucifié avec Christ, vous avez été enseveli avec lui. Et vous êtes ressuscité avec lui. Écoutez maintenant, le même Saint-Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Le troisième jour, la Bible dit que puisque tous sont morts avec Christ, tous aussi sont ressuscités avec Christ. Donc le même Saint-Esprit vous a ressuscité avec Christ. Mais regardez ce Christ ressuscité là. Regardez-le attentivement. Le dimanche matin là, qui est le premier jour de la semaine, ce n'est pas le septième jour. Malheureusement, on nous a induit en erreur en disant que c'est le septième jour. C'est le premier jour de la semaine. Alors, Marie de Magdala et les autres femmes s'en vont au tombeau pour parfumer, encenser le corps de Jésus. Quand elles arrivent, elles trouvent le tombeau vide. La pierre a été roulée. Alors, un ange apparaît à ces femmes-là et dit, il n'est pas ici, il est ressuscité, et allez-y dire à ses disciples qu'il les trouvera en Galilée. Mais, il y a Marie de Magdala qui a voulu rester. Marie qui a voulu rester. Et elle voit qui? Elle voit un homme. Elle regarde cet homme-là, elle ne le reconnaît pas. La Bible dit qu'elle pensait que c'était le jardinier. Écoutez, frère, si vous arrivez à cette révélation-là, votre vie chrétienne rentre dans une dimension de victoire, de libération totale. Vous n'avez pas besoin que quelqu'un prie pour vous pour la délivrance. Vous allez comprendre ça. Parce que c'est une nouvelle vie qui commence. C'est ça, la nouvelle création commence à partir de la résurrection. La nouvelle création ne commence pas à la croix. À la croix, c'est le vieil homme qui a été crucifié. À la croix, c'est notre mort. À la croix, nous sommes libérés par la mort, nous sommes libérés du pouvoir du péché. À la croix, nous sommes libérés du pouvoir de la maladie, du pouvoir de Satan. Et quand nous sommes allés au tombeau, nous avons été identifiés. Christ a été identifié à nous. Et maintenant, quand Christ est ressuscité, nous sommes ressuscités en nouveauté de vie. C'est la Bible qui le dit. N'écoutez pas vos traditions qui annulent la parole de Dieu. N'écoutez pas vos enseignements purement théoriques qui annulent la parole de Dieu. Christ est ressuscité. Marie l'a regardé. Elle ne l'a pas reconnu. Pourquoi? Son corps qu'il avait maintenant était un corps physique. Mais ce n'était pas le même corps. Vous entendez? Ce n'était pas le même corps. Puisque elle a été incapable de le reconnaître. Et ce n'est pas elle seule. Les disciples d'Emmaüs ont été incapables de le reconnaître. Ce n'est pas elle seulement. Même les disciples réunis dans la chambre haute, quand Jésus a apparu là, ils ne l'ont pas reconnu, ils ont cru que c'était un fantôme, un esprit. Vous voyez? Donc, il y a une puissance, la puissance de la résurrection transforme. C'est-à-dire, la Bible dit que Jésus-Christ est le premier-né d'entre les morts. Et le premier-né d'entre les morts, il a tous ceux qui sont morts avec lui, il les a fait sortir au même titre que lui, au même rang que lui. Et la puissance de la résurrection s'est manifestée. Et c'est pourquoi Paul dit, si quelqu'un est dans ce Christ ressuscité-là, il est une nouvelle création. Donc la nouvelle création commence à la résurrection de Jésus-Christ. Pas à sa crucifixion. À sa crucifixion, c'est le pardon des péchés. C'est notre mort avec Christ. C'est notre condamnation. Mais à la résurrection, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ, ceux qui sont ressuscités avec lui. Puisque Dieu dit qu'il nous a ressuscités, Éphésiens 2, versets 5, 6 et autres. Dieu dit qu'il nous a ressuscités avec Christ. Il nous a fait asseoir ensemble avec Christ dans les lieux célestes. Et dans Éphésiens 1, verset 25, je crois, il dit qu'au-dessus de toute domination, de toute autorité, donc la nouvelle création, voilà sa position. Sa position est céleste, elle est au-dessus de Satan. Elle est en même temps positionnée dans les lieux célestes, avec Christ dans les lieux célestes. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Vérifiez-le dans Éphésiens 1 et Éphésiens 2. Vous allez comprendre que vous n'êtes plus des misérables, vous n'êtes plus des pécheurs, non. Vous êtes des fils et des filles authentiques de Dieu. Vous êtes une nouvelle création. Vous êtes une race nouvelle d'hommes. Vous êtes fait partie de la seconde génération des hommes. Car la Bible dit que Jésus-Christ est le dernier Adam et le second homme. Il a fini par la croix. Il a fini avec la race d'Adam. Toute la race d'Adam déchue a été condamnée, frappée. C'est ça que Christ a représenté à la croix du calvaire jusqu'au tombeau. Mais par sa résurrection, ce n'est plus la race d'Adam qui continue. C'est la nouvelle génération d'hommes. Il est le second homme. Et en tant que second homme, il a mis en place une nouvelle race d'hommes qu'on appelle la nouvelle création, la nouvelle créature. Et c'est pourquoi le péché, la maladie, la malédiction, la pauvreté n'ont plus de pouvoir sur la nouvelle création. Mais malheureusement, comme nous ne comprenons pas cela, nous n'osons pas croire. Le problème, c'est que plusieurs d'entre nous sont effrayés de dire ce qu'ils sont en Christ. Et surtout, tous les francophones. Voilà notre faiblesse. Nous avons cette pensée de rationnel. C'est ça, nous avons hérité ça. Rationnel. C'est-à-dire que tout ce qu'on ne comprend pas, on le met de côté. La Bible, et c'est pourquoi nous n'osons pas proclamer que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. On dit, ah non, ça peut-être c'est pour le ciel. Non, la Bible dit que nous sommes morts avec Christ. Nous avons été crucifiés avec lui. Et que par sa résurrection, Dieu nous a rendus vivants avec lui. Et nous menons une vie nouvelle. Et dans Éphésiens 4, il est dit là-bas, revêtez l'homme nouveau qui a été créé selon Dieu. Revêtez l'homme nouveau. Vous entendez? Revêtez l'homme nouveau. Mais comme les chrétiens ont peur de ça, ils prient, ils jeûnent. Non, la Bible, il y a le jeûne à son temps, la prière en son temps. Mais dans Éphésiens, il n'est pas dit prier, il est dit revêter. Revêter l'homme nouveau qui a été créé à l'image de Christ. Revêter l'homme nouveau. Vous voyez là, Éphésiens 4 et verset 22. Il dit, et même verset 21, et si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller par rapport à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Vous dépouiller veut dire, ça veut dire quand on a tué un mouton, on le dépouille de sa peau. Donc la Bible dit, puisque vous êtes mort, vous devez vous dépouiller du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Et deuxièmement, verset 23, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Le problème, c'est que nous ne sommes pas renouvelés dans l'intelligence. Nous sommes nés de nouveau, mais notre intelligence continue à combattre la parole de Dieu. Notre intelligence continue à être rationnelle. Notre intelligence commence à dire oui, mais, ça c'est le rationalisme francophone. Et c'est ça qui nous crée des problèmes. Ça nous crée des problèmes. Trop de rationalisme. Oui, mais, Dieu a dit, mais attention à quoi? Est-ce que Dieu ment? Troisièmement, verset 24, si vous avez appris à vous dépouiller, si vous avez laissé votre intelligence se renouveler, troisième chose que Dieu vous demande de faire, revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Alors, vous avez besoin de quelle sanctification? Vous avez besoin de quelle sanctification du moins extérieure? Puisque si vous revêtez l'homme nouveau, qui a été créé selon qui? La nouvelle création est créée par qui? La première création avant que l'homme ne chute a été créée par qui? Par Dieu. La nouvelle création en Christ est créée par qui? Créée par Dieu encore. Dans quoi? Dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Si vous acceptez la vérité, la vérité va produire la justice, la justification et la sainteté. Ouais? Et c'est cette sainteté qui vous fera vivre dans la sanctification. Vous n'avez pas besoin de vous sanctifier pour être saint. C'est parce que vous êtes saint. C'est parce que vous étiez pécheur que vous péchez. Ce n'est pas parce que vous péchez que vous êtes devenu pécheur. Non! Vous avez une nature de pécheur. Et la Bible dit ici que celui qui est une nouvelle création, lui, il va vivre dans la sainteté. C'est lui qui connaît ça. Il connaît cette vérité. Vous voyez bien que produit la vérité. C'est la vérité qui vous rend libre. Vous voyez? La vérité qui vous rend libre. que vous avez été crucifié avec Christ, oui, vous êtes pardonné, vos péchés sont remis, vous avez été, Christ a pris vos maladies, vous êtes guéri. Maintenant, par la résurrection de Christ, vous êtes une nouvelle création. Que l'acceptation de cette vérité va produire la justification, c'est-à-dire la nature de Dieu, la capacité de s'arrêter devant Dieu sans être culpabilisé, sans complexe d'infériorité, sans peur, et la sainteté. Et c'est en ce moment-là que vous allez commencer à marcher dans la sainteté. N'essayez pas de vous rendre saint par des actes. Non. En vous dépouillant de tout, même en, si vous pouvez même vous habiller sans qu'on ne vous voit jamais, vous ne serez pas saint. La sainteté est d'abord produite par la parole de vérité. Parce que vous êtes une nouvelle création en Jésus-Christ. Oui! Les choses anciennes sont passées. Verset 2 Corinthiens 5, 17, 18, il est dit que cela vient de Dieu. Ce n'est pas une, c'est pas une astuce chrétienne. Le problème, beaucoup de gens sont à la croix. Certains progressent jusqu'au tombeau, d'autres progressent jusqu'au séjour des morts, mais ils ne sont jamais sortis vivants du tombeau. Ils sont et ils restent là-bas. Mais si Christ était, je vous pose la question. Vous qui aimez beaucoup la croix, l'œuvre de la croix, l'œuvre de la croix là, vous qui aimez ça, réfléchissez un peu. Si Jésus-Christ était resté à la croix, est-ce que vous serez sauvés? Réfléchissez. S'il était resté là-bas, et progressons avec vous. S'il était resté au tombeau, est-ce que vous serez sauvés? Non. S'il était resté au séjour des morts, est-ce que vous serez sauvés? Non. Donc, la croix là, l'œuvre achevée de Christ à la croix, c'est-à-dire sa mort, sa crucifixion à la croix, son ensevelissement et son séjour au séjour des morts là, c'est un premier aspect de l'œuvre achevée de Christ. Pour le pardon, la rémission des péchés, pour la guérison des maladies, pour la bénédiction et tout. Mais l'autre partie qui est très importante, la résurrection, c'est pourquoi Paul dit, je veux connaître Christ. Il n'a pas dit, je veux connaître Jésus. C'est Jésus qui est mort à la croix. Maintenant, il dit, il y a la nouvelle dimension de ce Jésus-là, il s'appelle Christ. C'est pourquoi le jour de la Pentecôte, Pierre a prêché dans Acte 2, il dit, c'est Jésus qui a été crucifié là. Nous en sommes témoins. Dieu l'a ressuscité et a fait de lui Seigneur et Christ. Vous entendez? Christ n'est pas le prénom de Jésus. Non! C'est la dimension céleste de Jésus. C'est la vraie dimension de Jésus. Jésus, c'est Dieu incarné qui s'est fait homme et qui est mort à la croix du calvaire, qui a pris nos péchés, qui est allé jusqu'au séjour des morts pour retirer la clé de la mort et du séjour des morts. Mais s'il était resté là-bas, aucun d'entre vous ne serait vivant. Parce que le séjour des morts, c'est la mort, c'est pas la vie. Sortez de là, Jésus est sorti de là. Sortez du séjour des morts par la foi. Croyez que la Bible dit dans Éphésiens 2, la Bible dit dans Romains 6, tout cela, Romains 6, 6, Romains 6, 3, 4, 5, 2, il parle de tout cela, que vous êtes ressuscité avec Christ. Ressuscité avec Christ, en nouveauté de vie. Et vous venez de voir avec moi, Éphésiens, revêtez l'homme nouveau. Revêtez l'homme nouveau créé selon Dieu dans la justice et la sainteté que produit la vérité. Alors si vous acceptez ça aujourd'hui, votre vie va changer. Vous n'allez plus être dans l'amorosité. Parce qu'il y a des gens au bout de 10 ans de christianisme, ils sont essoufflés. Beaucoup de gens qui m'écoutent aujourd'hui sont essoufflés. Quand pour aller à l'église, c'est un problème. Ils traînent les pieds. Quand on voit les gens qui traînent les pieds. Mais est-ce que je vous pose la question. Un homme, quand il va chez sa fiancée, Jésus, est-ce qu'il traîne les pieds? Un homme, quand il va dans les endroits, ceux qui s'en vont au stade là, est-ce qu'ils traînent les pieds? Ils sont pressés, ils s'habillent vite. Mais c'est ce qui vous plaît là. Mais si beaucoup d'entre vous, la vie chrétienne s'arrête à la croix, c'est normal. À la croix de Calvaire, quand Jésus est mort, tous les disciples sont partis dans la tristesse. Marie, sa mère, était triste. Jean était triste. Pierre était triste à tel point qu'il est dit, il retourne dans son travail. Pourquoi beaucoup de chrétiens retournent dans le monde là? Parce qu'ils n'ont qu'un Jésus crucifié. Ils n'ont qu'un Jésus au tombeau. Ils n'ont qu'un Jésus au séjour des morts. Quand Jésus est parti là-bas, Pierre a dit, c'est pas la peine. On a cru, on avait de l'espoir. Maintenant qu'il est mort, c'est fini. Notre espérance est finie. Vous entendez, auditeur, auditrice, pourquoi vous retournez dans le monde? Pourquoi le monde vous plaît encore? Pourquoi pour aller à l'église, à la communion des saints, vous avez tout un problème? Vous n'êtes pas fatigué pour aller à la communion quand on vous invite, quand un homme d'État vous invite, vous êtes pressé d'aller. Le grand Dieu vous invite au festin, au culte d'adoration, à l'assemblée des saints. La Bible dit dans le psaume 133 qu'il est bon pour des frères de demeurer ensemble. C'est là où Dieu envoie la bénédiction. Je suis heureux quand je m'en vais parmi mes frères dans l'assemblée des saints. Je ne vais pas par devoir, je vais par amour, parce qu'ils sont, ils font tous partie du corps de Christ. Ce n'est pas moi qui ai fait d'eux des membres de Christ, c'est Christ lui-même qui a fait d'eux de ses propres membres. Et moi je me réjouis, comme mon pied, mon genou, mes reins, mes bras se réjouissent d'être dans mon corps, je me réjouis d'être parmi mes frères. Oui, même quand mes pieds sont fatigués, c'est tout mon corps qui me repose. Ce ne sont pas mes pieds ne se détachent pas de mon corps. Si nous comprenons cela, nous serons heureux. Mais si nous voyons le christianisme, un Christ qui est mort, un Jésus qui est mort simplement, alors nous serons découragés et les disciples sont retournés à la pêche. Ils n'ont jamais cru à la résurrection. Ils n'ont jamais cru à la puissance de la résurrection. Beaucoup d'entre vous qui m'écoutez, vous ne croyez pas à la puissance de la résurrection. C'est pourquoi vous êtes des chrétiens morts. C'est-à-dire que, en réalité, vous avez reçu le pardon de vos péchés, vous avez reçu même des guérisons, des miracles, vous avez reçu des bénédictions, vous avez reçu la richesse, mais vous n'êtes pas vivant. Il n'y a pas d'énergie en vous, parce que vous êtes resté encore au tombeau. Christ est sorti du tombeau le troisième jour. Sortez avec lui par la foi. Croyez maintenant et revêtez l'homme nouveau qui a été créé selon Dieu dans la justice et dans la sainteté que produit la vérité. Et alors, vous allez voir un changement. Mais Christ, quand il est ressuscité, il a dit que Marie ne l'a pas reconnu. Les disciples de Marie ne l'ont pas reconnu. Alors, le chrétien qui est né de nouveau, qui est une nouvelle création, c'est extraordinaire. Paul dit, mais cette nouvelle création-là, ce n'est plus lui qui vit, c'est Christ qui vit en lui. Galates 2, 20, 21, vous connaissez ça, mais vous refusez d'accepter ces vérités. Donc, il y a eu un échange. La nouvelle création, ce n'est plus moi. Ce n'est plus l'homme, votre vieil homme. C'est vrai, le corps n'a pas changé. Mais votre corps n'est pas vous, votre corps n'est que votre enveloppe simplement. Votre vraie nature, l'homme nouveau, l'esprit nouveau, ce n'est plus vous, c'est Christ. Christ qui vit en vous par le Saint-Esprit. Oui, dans Hébreux 10:10, il dit que là-bas, vous avez accès dans le sanctuaire de Dieu. C'est extraordinaire. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Pas ceux qui sont en Jésus. Non! Ceux qui sont en Christ, le Christ ressuscité, il n'y a plus de condamnation car la loi de l'esprit de vie les a affranchis de la loi du péché et de la mort. Ils sont affranchis. Et celui qui est né de Dieu triomphe du monde et triomphe de ce monde-là par la foi. C'est écrit dans 1 Jean. 1 Jean 5, allez-y voir là-bas, verset 4. Et non seulement cela, nous devenons des branches porteuses de fruits. Jean 15, verset 5. Et Jésus dit, je suis le vrai cep et vous êtes le sarment. Vous entendez? 2 Pierre 1, 4 dit, vous êtes participants de la nature divine. Participants de la... C'est ça les gens, les chrétiens ne croient pas ça. Vous êtes participants de la nature divine. La nature divine se manifeste en vous chaque matin quand vous réveillez. Il dit, mais écoutez 1 Corinthiens 3, qu'est-ce qu'il dit? Que vous êtes, votre corps est le temple du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 6, 17, 20 vous le dit clairement. 1 Corinthiens 17, verset 20 vous le dit. Il dit que celui qui s'attache au Seigneur est un seul esprit avec lui, pas un seul corps. Parce que Dieu n'a pas de corps physique, Dieu a un corps céleste. Lisez dans 1 Corinthiens 15, vous allez le trouver. Adam était une âme vivante, mais Christ était un esprit vivifiant. De même que nous avons porté l'image d'Adam dans la chair, nous portons maintenant l'image de Christ. Et c'est pourquoi, regardez les noms de la nouvelle création. 2 Corinthiens 6, les noms de la nouvelle création sont des noms extraordinaires identifiés à Christ lui-même. Regardez les noms de la nouvelle création que vous êtes. Vous n'avez pas besoin de vous laisser assujettir aux hommes en vous disant, il faut aller faire ceci. Non! La Bible dit dans 2 Corinthiens 6, 14, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Vous entendez? Celui qui n'est pas encore sauvé s'appelle l'iniquité. Et vous vous appelez justice. C'est normal, puisque 2 Corinthiens 5, 21 dit que maintenant, vous êtes devenu la justice de Dieu en Christ. Votre nom, c'est la justice. Alors, on ne peut plus vous condamner. Ça, c'est le premier nom de la nouvelle création, justice. Deuxième nom, ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Vous êtes la lumière. Jésus vous l'a dit plusieurs fois. Vous êtes la lumière du monde. Pourquoi vous... C'est le monde qui est ténèbre. Vous êtes lumière. Pourquoi vous ne brillez pas? Pourquoi vous ne laissez pas cette lumière-là briller pour que le monde voit que vous êtes la lumière? Voilà votre nom. Votre Père est Père des Lumières. Votre Seigneur est la lumière du monde. Et le Père et le Fils, par le Saint-Esprit de lumière, habite en vous. Vous ne pouvez qu'être lumière. Pourquoi vous refusez cela? Pourquoi, chrétien francophone, sortez de votre rationalisme et commencez à proclamer ce que Dieu dit que vous êtes. N'ayez pas peur là. Un prince n'a pas honte de dire ce qu'il est. Je suis prince. Il n'a pas peur. Ce n'est pas l'orgueil. Affirmer son identité n'a rien d'orgueilleux. Affirmer ce qu'on est n'est rien d'orgueilleux en Christ. C'est une grâce, c'est un don. Ensuite, troisième chose. Et quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Vous appelez Christ même. Donc, vous êtes en Christ, vous êtes appelé Christ. Voilà un de vos noms. Ensuite, quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Vous êtes appelé fidèle. Ouais, Dieu fait une séparation de vous et vous êtes en train de dire, ah oui, nous les pauvres pécheurs. Si tu es pauvre pécheur, tu ne verras pas Dieu. Dieu n'a pas des enfants pécheurs. Dieu aime les pécheurs, mais les pécheurs ne sont pas les enfants de Dieu. Ça, dans quelle Bible? Amenez-moi cette Bible-là, je veux voir. Dieu a tant aimé les pécheurs, tous les pécheurs, qu'il a donné son fils unique. Mais aucun pécheur n'est son fils. Il veut justement, il a tellement aimé les pécheurs pour que les pécheurs deviennent ses enfants. Pour que les pécheurs quittent la nature de pécheur pour être enfants de Dieu. Ensuite, il dit, quel rapport a-t-il entre le temple et les idoles? Vous êtes appelé temple de Dieu. Vous êtes le temple de Dieu. Dieu habite en vous. Vous voyez, frère? Vous ne croyez pas cela, vous levez le matin, Seigneur, voilà, il faut m'aider aujourd'hui. Non, tu es déjà vainqueur. Nous sommes plus que vainqueurs. Romains 8. Nous sommes plus que vainqueurs. Commencez à proclamer la vérité de la parole de Dieu sur votre vie. Proclamez, croyez, marchez, proclamez. Ne restez pas là. Ne restez pas la bouche fermée en disant que ce sont des proclamations comme les... Non! Le monde même a compris que la proclamation est une chose. Vous ne proclamez pas des choses bizarres. Vous proclamez ce que Dieu dit que vous êtes. Je suis un Karambiri, je le proclame haut et fort. Comment vous appelez? Je m'appelle Karambiri Mamadou. Je ne dis pas que je m'appelle Ouedraogo. J'ai pas honte d'être Karambiri. J'ai pas honte d'être fils de Dieu. J'ai pas honte d'être la lumière. J'ai pas honte d'être temple de Dieu. J'ai pas honte de dire que je suis un seul esprit avec le Seigneur. Je n'ai pas honte pour dire que je suis la nouvelle création. Je suis ressuscité avec Christ. Je suis assis dans les lieux célestes avec Christ. Je proclame cela, je le dis. Faites-le. Et chaque jour, chaque matin, je suis ambassadeur. J'ai le mystère de réconciliation. C'est pourquoi je réconcilie les gens. C'est ça que vous êtes. Mais vous voulez jouer au feu humble en disant que non, ça c'est l'orgueil. Moi, je ne suis pas orgueilleux. Si vous êtes orgueilleux, vous êtes un niard. Vous êtes un ignorant. Moi, je suis dans la vérité, dans la connaissance de la parole de Dieu. Que Dieu vous aide. Sortez de l'ignorance. Proclamez ce que vous êtes et alors vous verrez que Jésus-Christ est Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen.
C'était l'heure de la vérité. Une émission du Centre d'évangélisation. Aujourd'hui animé par le pasteur Mamadou Philippe Karambiri. Mesdames et messieurs, pour tout renseignement, contactez-nous à l'adresse suivante. 01 boîte postale 1474 Ouagadougou. 01 téléphone 50 36 43 33. Voilà, mesdames et messieurs, amis des hommes, que le Seigneur vous bénisse et nous nous donnons rendez-vous la semaine prochaine, si Dieu le veut. Au revoir. Salut.